Bonjour tout le monde, Spectaculaire commence aujourd'hui, mercredi 29 avril 2015. C'est la 63e, 64e émission, je ne sais plus. Christophe Rollin au micro, Gérald est également là. Je l'avais annoncé la semaine dernière, en revanche, pas d'invité pour aujourd'hui. Oui, c'est un peu dommage, un peu terrible, je ne vais pas entrer dans les détails, mais bon, enfin voilà, pas d'invité, donc cela va nous permettre, c'est pas totalement imprévu, peut-être un peu, mais bon, Gérald et moi avons tout de même beaucoup de matière à vous... À vous donner, peut-être pas autant que le panorama hebdo émission précédente, l'émission qui nous précède de midi à 14h. Donc, voilà, l'émission va durer jusqu'à 15h comme d'habitude. Le blues des canuts devrait avoir lieu aujourd'hui. Donc, nous allons discuter, Gérald et moi, et nous allons même commencer, nous n'allons pas faire que discuter, nous allons commencer par écouter un titre, Nevtché, l'album Marseille. Non, c'est le titre c'est Marseille. Donc, Gérald nous indiquera ce que c'est. Vous êtes bien sur Radio Canu, vous avez tout à fait raison, c'est le 102.2 de la bande FM à Lyon, ou bien vous nous écoutez sur internet, radiocanu.org.
Sur cette plage, si ce n'est les prophètes et les catalans. Dans les rues, il y a partout la religion, les messes sous les luminaires, faites sonner le limonaire. Et si c'est ça, l'éternité, j'en prendrai bien. Était ouvert sur la corniche Kennedy. Je vois tes miches à la garçonne, des flaques bleues gardent l'estac. Je ne vois pas Frida Kahlo, je pense plutôt à cet album qui vient de Terry Richardson. Et si c'est ça, sur cette plage, je m'en irai.
Quelques notes de guitare pour terminer, c'est très beau.
Bonjour Christophe.
Bonjour Gérald.
Bonjour chers auditeurs.
Comment te portes-tu?
Ça va.
Bien, t'as fait
un peu de repos.
Belle relâche, repos.
Non, oui, on a raté l'émission précédente,
voilà,
malheureusement.
C'est ça. On a fait que la semaine dernière, c'est tout. Bon. Sinon la semaine précédente c'était repos. Donc c'est quoi ce Nevtché que tu
Alors,
souhaitais faire?
Alors ça fait plusieurs émissions qu'on n'a jamais le temps de le passer,
voilà.
C'est un ami qui m'a prêté ça, qui viendra un jour d'ailleurs en tant qu'invité à cette émission, il est prévu dans les tuyaux. Donc Nevtché, je vais vous lire le petit speech parce que j'ai même imprimé un petit truc. C'est pas le petit bulletin, mais ça m'a l'air quand même pas mal. C'est sur le site, hein. Donc, son vrai nom, c'est Frédéric Nevtché Irlian. Un nom quand même très connoté, hein, en ces commémorations.
Ces jours-ci, c'était 25 avril, je crois que c'était. C'était samedi, il me semble.
Quoi?
Bien, le centenaire du... C'est assez terrible. Prononçons les mots, le centenaire du début, c'est ça, du génocide arménien,
voilà.
En 1915.
Donc, Nevtché Irlian, je pense qu'il est d'origine arménienne et espagnole, je crois aussi. Donc, c'est son troisième album, c'est un personnage intéressant, c'est un capétien de lettres. Avec Monde Nouveau, Monde Ancien, son premier album sorti en 2009, puis Le Soleil Brille pour Tout le Monde, point d'interrogation. Là, le point se justifie. Une mise en musique de texte inédit militant de Prévert en 2011. Frédéric Nefché-Irlian, qui est donc devenu Nefché de Marseille, qui est assez connu maintenant, désormais appelé Nefché, a tracé une route sinueuse et singulière entre rock, slam et chanson. Un nom compliqué à un genre indéfinissable, une démarche de développement artisanal et militante. Ce capétien de français n'avait pas tous les atouts pour vivre de sa musique dans le contexte que nous connaissons depuis une décennie. Et pourtant, après 6 ans et 3 albums, c'est plus de 20 000 exemplaires vendus, 400 dates partout en France et à l'étranger, un accompagnement de structures nationales telles que le Festival des Francopholies, Mars Attack, le Centre Culturel Paul B ou la SACEM, pour ne citer que, qui confirme un phénomène récurrent. On aime aussi dans l'Hexagone une expression exigeante autour du mot. Donc on l'aura compris après ce morceau qui s'appelle Marseille, extrait de Rétroviseur, le troisième et dernier album. Donc son dernier album, Rétroviseur, écrit en collaboration avec Ronan Chesneau, qui est aussi auteur de théâtre connu par ses pièces Fées et Cannibales, et réalisé par Jean Lamotte, deux O, hein, c'est flamand ça, Lamotte. Réalisateur d'Alain Bachung et Salif Keita quand même. Et le récit sans compromis abrupt et romantique d'une adolescence à Marseille, une adolescence d'hier et d'aujourd'hui dans cette ville, qui, loin des clichés d'une cité ensoleillée, excessive et au fort accent, apparaît dans cet album comme on ne l'a jamais présenté. Les couleurs sont lessivées, Si nous marchons ensemble, un des titres. C'est souvent l'hiver, le mistral siffle, les plages sont vides, Marseille qu'on vient d'écouter. On y retrouve aussi la ferveur des premières amours licencieuses, grand brûlé de l'amour, les errances existentielles, vas-tu freiner, un autre titre intéressant, l'atmosphère des longues soirées sur les parkings et les rêves adolescents de tout défoncer sur le parking. Sans nostalgie aucune, une adolescence commune comme partout ailleurs. Enregistré entre Dakar, Marseille, Paris et l'île de la Réunion, Rétroviseur est un disque post-capital de la culture, dans lequel les souvenirs sépia et velourés invitent à imaginer l'avenir sans paillettes ni projecteurs. Artiste ancré dans sa réalité, Frédéric a, au fil des ans, multiplié les rencontres et les collaborations. Il est effectivement bien entouré. Il a collaboré avec Serge Tessauguet, qu'on ne présente plus.
Bassiste, c'est ça?
Guitariste de Noir Désir. Mike Ladd, que je connais pas. Saul Williams, elle, Marcel Canche, Rodolphe Berger. Babix, c'est Thomas de Pourquerie.
Cat Onoma, je crois, c'est ça, le groupe,
voilà,
de Berger.
Ouais, Rodolphe Berger. Donc, il a initié à Marseille le micro-festival Gravitation autour du mot mise en musique. Ont été invités, entre autres, Dick Angarn. Donc, on a écouté beaucoup de chansons. J'avais dit à une émission, d'ailleurs, qu'il passerait à Lyon, mais malheureusement, il ne passe pas à Lyon. Il passe pas très loin d'ici, à Saint-Étienne et ou à Firminy, au festival Parole et Musique, le grand festival de la chanson française et francophone stéphanois, qui devrait bientôt commencer. Donc, Dick Angarn, si vous voulez aller voir, c'est à Saint-Étienne, à 50 km. Sandra Nkake, Michel Clou, Ottilie B, Dimonet, Vladimir Anselme, Samine Descoster, DJs, Peter Van Paul, je connais pas, des poètes sonores, etc.
Bon, là tu joues au name dropping.
Et il a
bon.
Fondé une coopérative culturelle interne-externe qui assure la production de disques, de spectacles et l'accompagnement d'artistes émergents. Donc il pense aussi à d'autres peut-être capétiens de français qui voudraient percer dans la musique. En janvier 2015, Frédéric a été appelé à participer en tant qu'artiste associé et conseiller musique à la programmation au projet de Francesca Poloniato, nouvellement nommée à la direction de la scène internationale du Merlan à Marseille. Donc voilà, une nouvelle tête d'affiche
d'où
intéressante.
Traites-tu tout ce texte? Où est-ce que tu l'as trouvé?
Du site qui lui est consacré. Je ne sais plus exactement le nom, vous trouverez.
Attention, ce n'est pas une page Wikipédia, non quand même.
Non, c'est un. Bon, j'ai oublié même, hein, mais c'est facile à trouver. Et puis vous pouvez écouter des titres.
Eh bien,
voir des vidéos.
Je mettrai tout cela sur le blog parce que, chers auditeurs, l'émission est tout de même enregistrée. Voilà, c'est une sorte de tic que nous avons. Rappelle-toi cela, Gérald, l'émission précédente où nous n'avions pas, pour laquelle nous n'avions pas eu d'invité, c'était le mercredi 7 janvier, jour funeste s'il en est. On avait quand même pu, il y avait eu des problèmes pour mettre cette émission en ligne, on avait quand même pu le faire et nous avions bavardé pendant cette émission de diverses choses et je crois qu'on venait d'apprendre, c'est ça, les noms des dessinateurs décédés. Il en manquait encore un, je crois, Honoré, on l'avait su en fin de journée, c'est ça?
Oncle Bernard, Bernard-Marie, on savait pas encore.
On l'avait appris, voilà.
Donc on avait invité Volinsky, Charb, Solo, Cabu à chanter, c'était...
Oui, voilà, on les avait invités à chanter, c'est ça.
Très spécial.
C'était un CD que tu avais retrouvé, France Culture d'ailleurs l'avait également programmé dans la semaine, ils avaient diffusé tous ces différents titre, c'était quoi? Il y avait une Cabu qui chantait avec son fils, c'était la Java, je ne sais plus quoi. Enfin bref, essayons à 14h13 d'être un peu plus tout de même à défaut rigoureux, essayons d'être plus précis. Nous écoutions donc quoi? Là pour le coup, tu as été très précis, tu nous as longuement exposé ce que nous avons écouté en début d'émission. Moi je souhaiterais revenir sur ce que nous faisions la semaine dernière, en ton absence Gérald, l'émission. Enfin, nous avons reçu Sébastien Derain, directeur musical de l'ensemble Les Nouveaux Caractères, et nous l'avons reçu pour parler de ce ce spectacle Didon et Énée qui a commencé hier, mardi 28 avril, au Théâtre de la Croix-Rousse. C'est un spectacle très particulier, la mise en scène est assurée par Caroline Mutel et il y a également une partie de scénario et de dessin qui est faite par la dessinatrice Florence Dupré-Latour. C'est-à-dire que sur scène, les décors sont faits par une dessinatrice. Il y a également, enfin, différentes choses qui apparaissent. Je vous lis comme ça le texte qui se trouve sur la brochure, le programme de saison du Théâtre de la Croix-Rousse sur ce Didon et Énée de Purcell. Je crois que c'est Sébastien Derain qui écrit d'ailleurs ce petit texte. Si l'on généralise un peu, les lecteurs de BD ne connaissent de l'opéra que Tintin et la Castafiore. Et si l'on généralise encore, les amateurs d'opéra ne connaissent de la BD que Tintin et la Castafiore également. Écrit Sébastien Derain. Donc voilà, enfin, cette phrase-là, musicien et fondateur des Nouveaux Caractères, ensemble musical baroque. De ce constat un peu provocateur est née cette création de Didon et Énée de Purcell. Didon et Énée est une grande histoire d'amour, contrarié par les dieux. C'est aussi le premier opéra de petite forme en langue anglaise. Au-delà de cette magnifique musique, comment rendre intelligible cette histoire à un public non anglophone? En proposant à une dessinatrice de bande dessinée, Florence Dupré-Latour, de sous-titrer l'action par des images, case par case. Les projections accompagnent la musique, les chanteurs entrent et sortent des dessins avec une grande fluidité, un exceptionnel moment musical et graphique. On retrouve là la générosité des Nouveaux Caractères qui, bien au-delà de leur excellence musicale, veulent faire partager au plus grand nombre et en famille une musique baroque considérée comme savante. Une rencontre rare, imaginée par Lyon BD Festival, pour que personne ne reste dans sa case. Le Lyon BD Festival, d'ailleurs, je crois, va avoir lieu au mois de juin, me semble-t-il, c'est ça? Écoutez, j'ai tenté de retrouver tout ça, de retrouver les dates. Et puis, comme ça, cela fera des précisions. Nous aurions pu faire comme la semaine dernière et continuer à écouter de la musique baroque, puisque la semaine dernière, Gérald, tu as manqué ça. Mais
j'ai écouté, réécouté l'émission sur le blog.
Ce que nous avons entendu, la musique programmée, c'était une musique qui a été enregistrée par les Nouveaux Caractères eux-mêmes. L'ensemble de Sébastien Derain, c'était de Jean-Philippe Rameau, Les Surprises de l'amour. Et quelle générosité de sa part. Il nous a offert ce coffret 3 CD. Gérald, on va écouter autre chose, non? D'ailleurs,
oui.
Est-ce que tu aurais quelque chose, là, d'ailleurs, à me soumettre pour
On va renouer avec les émissions précédentes. J'ai plein d'annonces à faire dans ce sens-là. Et j'ai amené les dernières compositions de notre ancien invité de la 62, Michel Fernandez, le saxophoniste de jazz.
62 ou 52, non?
Non, 60 et quelques. Bon, peu importe, il y a quoi, un mois. En tout cas, il était venu nous parler.
Musique, jazz.
Voilà. Et il a sorti un nouvel album avec sa fille à la batterie, un duo sax. Et on va peut-être pouvoir écouter, je sais pas, Andalouse ou Brume, un morceau de 3 minutes, il y a 6 morceaux. Au choix.
Donc cela est du jazz, c'est en rapport avec un invité que nous avons eu précédemment, Sébastien Derain, donc c'est Surprise de l'amour. Peut-être qu'on en écoutera d'ici la fin d'émission, écouter du baroque. Moi, je m'étais même dit que puisque cette émission n'avait pas d'invité, je pouvais rediffuser une partie de la semaine dernière lorsque Sébastien Derain, plus précisément, après s'être présenté, a présenté le spectacle, mais voilà, auditeurs, je vous invite à trouver des renseignements sur le site, à la fois électronique et sur le site lui-même de la Croix-Rousse, à côté, sur le plateau, voilà, pour savoir ce qu'il en est de ce spectacle. Les dates prochaines à venir, ce sont les mercredi 29, ce soir, à 19h30, mardi 5 mai. Il y a un petit bond parce que ce jour férié change un peu les choses, vendredi 1er mai. Donc la semaine prochaine, mardi 5 mai et mercredi 6 à 19h30, mercredi 6 mai sera à 15h. Entre-temps, il y aura eu des dates scolaires, c'est peut-être pour ça que ça coupe un peu. Nous écoutons donc, tu l'as annoncé, Michel Fernandez, c'est n'importe.
Et sa fille.
Et sa fille.
Léa Fernandez à la batterie, Michel Fernandez au saxophone. Jazz contemporain et cosmopolite au rythme précis, au chorus ouvert sur le voyage. Critique de Jazz In Situ.
Thank you.
Je me demandais ce qu'on aurait coupé. Est-ce qu'il y avait encore un petit peu de batterie qui continuait ? Non, plus. Gérald, rappel.
Brume.
Rappel tout de même, voilà. Brume de l'album de Michel Fernandez qui porte le nom Soledad. Était-il sorti lorsqu'il est.
Non, il est tout récent, il est 2015. Il a quelques semaines en fait.
Et oui, oui, je suis bête, je pose cette question alors que je sais très bien que c'est une sommité en matière des arts plastiques qui a composé la pochette de cet album. Composition Michel Fernandez, arrangement Léa Fernandez, enregistré, mixé et masterisé. À quel endroit ça n'est pas dit, mais c'est à Lyon que c'est fait tout ça.
Je pense que c'est l'autoproduction.
Ah, parce que Sébastien Derain, je crois que c'est indiqué ses nouveaux caractères, là, les surprises de l'amour de Rameau. Je crois que c'est à Villeurbanne, il me semble, espace Tonkin. Je maîtrise mal. Je suppose qu'il doit y avoir là-bas une salle d'enregistrement. Gérald, 14h22, nous sommes, je le rappelle pour les auditeurs qui prendraient l'émission en cours de route, alors que, mon Dieu, on doit commencer à 14h. D'ailleurs, nous, aujourd'hui, on n'a pas commencé à 14h. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, nous n'avons pas d'invité aujourd'hui. Il a été question à un moment de parler de l'opéra à venir. La première est demain, jeudi 30 avril, la première de Carmen de Bizet qui est donnée à l'Opéra de Lyon. C'est une reprise. La mise en scène est assurée par Olivier Py et ce spectacle a déjà eu lieu. Je crois que c'était pas la saison précédente, c'était il y a deux saisons, il me semble, la saison 2012-13. Donc c'est une reprise et il avait été envisagé à un moment avec l'opéra de recevoir un artiste intervenant sur ce spectacle. Ça n'a pas pu se faire malheureusement, hélas. Avec l'opéra néanmoins, il reste encore d'autres dates. Il y a l'opéra Péléas et Mélisande qui arrive au mois de juin. Il y a aussi des ballets. Et normalement avec une chroniqueuse de danse contemporaine lyonnaise, Galia, j'ai cru comprendre. Nous devrions parler de l'un des prochains ballets, le ballet Première qui aura lieu à la fin du mois de mai. Ça ne sera pas sur la scène de l'Opéra de Lyon, ça se fera à Caluire, au Radiant. Et puis, toute fin de saison, au mois de juillet, il y aura un autre ballet de Marcia Barcelos avec Carl Biscuit la vidéo. Je pêche toujours, je n'arrive jamais vraiment à prononcer le nom de ce ballet. Ce sont des rhapsodies, c'est ce que je sais, les rhapsodies. Je vais en retrouver le nom. Est-ce que je l'ai sous les yeux? Non, je ne l'ai pas encore sous les yeux. Les Atva Kabar, je crois, quelque chose comme ça.
Entre-temps, nous aurons
massacre, le truc.
Une invitée. On essaie de trouver un créneau.
Ah, mais bien entendu.
Plusieurs invités dans le cadre d'une opération très intéressante qui se déroule à Lyon, dans le premier arrondissement. Il s'agit d'une sorte de jumelage, à la fois culturel, économique, artistique, etc., qui s'appelle Alphanzine. Donc, Warda, Brahim aussi peut-être, ces gens qui sont à l'origine de ce projet qui est très intéressant, avec un village du sud marocain et un jumelage avec Lyon 1er, vont venir nous parler de ce grand projet. C'est un projet collaboratif d'ailleurs, auquel tout le monde peut participer à différents niveaux et de différentes manières. Et c'est assez riche. Il y avait une réunion à la mairie du 1er il y a de ça 3 semaines. Il y avait eu beaucoup de monde, c'était un grand succès. Et une opération de finalisation d'une structure architecturale qui va se développer en structure culturelle et économique, etc. On en parlera soit la semaine prochaine, le 6, soit le 13, j'espère. À confirmer.
Il y a aussi tout de même encore d'autres invités qui arriveront. Voilà, parce que on revient dessus, on le dit, normalement l'émission est plutôt avec des invités. C'est pas si fréquent que ça. Je crois que sur la soixantaine d'émissions que nous avons faites, il y a les 2, 3, 4, c'est peut-être la quatrième, voire la cinquième sans invité. Mais normalement, ça n'est pas le cas. Spectaculaire, nous nous proposons toujours de recevoir quelqu'un pour parler. Et là, nous ne faisons que parler entre nous. Voilà, nous évoquons à l'instant donc les invités.
Il faut pas être si triste, Christophe.
Si,
on va parler de nos anciens invités.
Ah,
d'ailleurs.
Ah.
Martin,
et ses
rappelez-vous, Martin et ses antécédents, et Martin et le Garoudaz Band est venu aussi dans les premières émissions, et il se trouve que le vendredi 1er mai, le Garoudaz Western Club Band vs Jack the Cop au Craspec Musique, ce vendredi 1er mai à 20h30, pour le tarif modique de 5 euros. Donc le Craspec, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas, c'est un lieu très intéressant, expérimental, tourné vers les nouvelles musiques peu connues mais très intéressantes, une petite salle où se sont produits des gens vraiment très intéressants dans tous les registres musicaux. Donc c'est au 20 Montée Saint-Sébastien, vers la Croix-Paquet, au-dessus du métro Croix-Paquet. Le Craspec, ce vendredi 1er mai à 20h30, Jacques The Cop vs Garuda's Western Club Band. Donc le Garuda a fait aussi un concept de concert et de musique, d'écriture, pas autour que de la piraterie, mais aussi du western. Et est-ce avec Fleur aussi, qui chante très bien.
Est-ce que tout ça pourra se trouver sur le blog? Oui, ces informations sont disponibles sur Internet.
On mettra ça.
Eh bien, tout cela apparaîtra sur le blog.
Alors, vous aurez le choix le vendredi 1er mai. J'ai commencé par Martin, puisqu'il a été un de nos invités. Mais si vous n'aimez pas le Garuda's Band, c'est une erreur, mais c'est comme ça. Vous pouvez vous reporter encore à l'écouter du jazz, puisqu'on vient d'écouter du jazz. Il y aura au Bon Sauvage... 20 quai Jean-Jacques Rousseau, dont on a parlé, hein, ce lieu de
Attention,
spectacle.
Quelle commune? Est-ce Lyon?
Non. Alors, c'est la Mulatière, en fait, mais voilà. C'est juste après le panneau. C'est en face de l'embarcadère, on va dire, à peu près. Juste après le périph', côté Saône.
Mais comment on s'y rend, là-bas?
Ben, c'est juste en allant à la Mulatière.
En descendant
rive droite de la Saône, pas côté de la confluence, de l'autre en face.
En descendant.
Et c'est bien avant, hein, la confluence.
En descendant les quais de Saône.
Voilà, c'est juste après le panneau Lyon, on passe à la Mulatière. 20 quais Jean-Jacques Rousseau.
Tu t'y rends en vélo, toi?
On y va en vélo, on peut y aller à pied, c'est pas si loin que ça. Bon, c'est à un quart d'heure, 10 minutes. En tout cas, c'est une salle.
Alors, ce vendredi 1er mai.
Qui a lancé sa programmation. Ce vendredi 1er mai, il y aura là un quartet de jazz, quartet 17. Avec des violons, des claviers, des basses, qui a l'air très intéressant autour de la polyrythmie. Le concert est à 21h. Et le prix est libre. Le 2 mai, il y aura Barna Award, ceux qui aiment la chanson folk. Le samedi 2 mai, donc à 21h, pareil, tarif libre. Les prix sont libres. Et vous pouvez commencer déjà votre semaine de spectacle au Bon Sauvage, 20 quai Jean-Jacques Rousseau. Le 30 avril, jeudi, il y aura Un Traquito Mas. Donc à 20h, c'est de la chanson latine, avec toujours un prix libre. Et enfin, pour les amateurs de vin... Et amateurs et amoureux des bons sauvages, vous pourrez retourner encore le dimanche 3 mai à 11h du matin. Et là, vous avez un rendez-vous avec un vigneron de la région qui s'appelle Michel Guignet. Alors là, ce sera opération dégustation. Vous pouvez repartir avec des bouteilles. Ce sera une présentation autour du cépage Gamay et d'un vin du Beaujolais qui souffre de mauvais a priori. Alors que quand un Beaujolais est bon et surtout qu'il est bio et bien cultivé, il est excellent. C'est dimanche 3 mai au Bon Sauvage.
Peux-tu rappeler que les Bons Sauvages ne font pas que salle de spectacle?
Ils font restauration. Tapez toutes les informations sur le site, vous tapez Bon Sauvage, vous trouverez tout ce qu'il faut. Toute la programmation, mois par mois, moi je la reçois au début de mois. C'est beaucoup de spectacles les jeudis, vendredis, samedi, dimanche. C'est fermé le lundi, mais il y a de la restauration le soir, voilà. À midi. Les formules changent. Ça peut être, par exemple, la chanson latine, je pense, jeudi soir. Ce sera peut-être un repas chanson.
Et pour ce qui est de la cuisine?
Alors la cuisine, ce sont que des produits de producteurs qui sont bien préparés, qui sont très bons. C'est soit producteur, soit bio, on va dire. C'est des produits de qualité. Ils ont une bière, la Folleuse, qui est très très bonne, pas chère du tout.
Midi et soir.
Des bons vins. Ça dépend les jours, mais en général, c'est midi et soir. En fin de semaine, c'est surtout le soir, ça peut même fermer tard, à 1h du matin, voire plus. Et il y a aussi de la restauration à midi pour les gens du quartier aussi qui mangent là-bas. Enfin, c'est avec le soleil, ils ont une grande terrasse qui donne sur la Saône. C'est un endroit assez calme. On n'a pas l'impression d'être à Lyon vraiment, puisqu'il y a un côté campagnard. Ambiance guinguette, hein. L'esprit, c'était vraiment de renouer avec... C'était avant un ancien établissement de restauration qui a fermé, qui a été tout retapé par tout un collectif. Plein de gens ont participé à la restauration du lieu pour en faire un lieu vivant, dynamique et très intéressant à tous les niveaux. Voilà.
Très bien, alors voilà, j'attrape seulement le mot, tu dis bon sauvage, moi il me semble qu'il y a une belle sauvagerie dans les premières notes, on va quand même écouter ça, dans les premières notes de Carmen, de Georges Bizet. C'est une interprétation de Claudio Abbado à la tête de quel orchestre? Je crois que c'est un orchestre autrichien, il me semble, c'est le... n'importe quoi, je pensais que c'était le Wiener Philharmonica, en fait non, c'est le London Symphony Orchestra. Nous écoutons donc le tout début, l'ouverture de Carmen de Bizet, il y a donc les différents thèmes qui apparaissent dans tout l'opéra. Pourquoi écouter ça? Eh bien parce que c'est le prochain opéra qui commence demain, mise en scène Olivier Pille, et qui se termine je crois à la mi-mai. On en fera peut-être un compte rendu. Nous écoutons Carmen et nous restons sur Radio Canu. Et en fait, si nous continuons comme ça, ben on ne s'arrête plus. C'est donc l'opéra Carmen de Georges Bizet qui, dont on aurait pu parler aujourd'hui. Bon, ben voilà, ça ne se fait pas. Cet opéra a tout de même lieu. La première est demain à l'Opéra de Lyon, le jeudi 30 avril. La mise en scène est de Olivier Py. Je sais que ça a déjà été donné. J'ai dit tout à l'heure que ça a été donné la saison 2013-14. 2012-13, en fait, je ne sais plus très bien, mais ça a déjà été... était donné auparavant. Donc la première de cet opéra a lieu demain. Est-ce que j'ai la distribution sous les yeux? Non, je n'ai pas tout. Si, je crois, la direction musicale est assurée par Riccardo Minassi, Olivier Py donc à la mise en scène, Pierre-André Weitz au décor et costume, Lumière Bertrand qui lit. Est-ce que j'ai plus de précisions sur les différents chanteurs? Oui, Carmen Kate Aldrich, Don José Arturo Chacon Cruz et puis Escamillo Jean-Sébastien Bou. Voilà, il y a encore d'autres chanteurs aussi. Cet opéra est donc donné du jeudi 30 avril demain jusqu'au dimanche 17 mai. C'est à 20h en soirée. Le dimanche 17 mai, ce sera à 16h. En gros, c'est donné tous les deux jours, tous les trois jours. Date suivante, samedi 2 mai, après ce jeudi. Ensuite, mardi 5 mai, jeudi 7 mai, samedi 9, lundi 11 et ainsi de suite. Tous ces renseignements seront donnés sur Internet. Cet opéra, il y a une vidéo également, donc on peut peut-être s'en faire une idée. Voilà, Gérald, on essaiera d'y aller, oui, pour en faire un compte-rendu. Est-ce que ce sera encore repris dans quelques années? Peut-être pas, mais les spectacles d'Olivier Py sont toujours pleins de...
J'ai jamais vu en plus, ça m'intéresse.
Plein de...
Faut-il qu'on soit invité?
Quoi. Oui, plein de sexualité, voilà, on peut le dire notamment, plein de fureur, plein d'énergie, plein de vie. Olivier Py lui-même, déjà, il est passé, je crois, dernièrement, oui, il est passé au TNP pour une pièce Orlando. Gérald, qu'est-ce que nous pourrions évoquer? Il y avait différentes conférences de presse qui ont eu lieu ces derniers temps, ce qui fait que l'Opéra de Lyon a sa nouvelle programmation pour la saison 2015-2016. L'Auditorium, c'est-à-dire l'Orchestre National de Lyon, il y a également une programmation pour la saison 2015-16. Le Théâtre de la Croix-Rousse, c'est à venir. Le Théâtre de... qui d'autre encore, je crois, TNP, tout cela, c'est encore à venir, ça n'est pas encore fait.
Eh bien, on va pouvoir parler d'autres choses complètement.
Très bien.
Ça changera.
Variant.
Du théâtre.
Et de la culture.
On pourrait parler un petit moment d'un haut lieu de la culture lyonnaise contemporaine, universelle, qui s'appelle le nouveau musée des Confluences, puisque j'ai réussi enfin à m'y rendre et à découvrir le lieu.
Toi, oui.
Donc voilà, alors on peut avoir plein d'avis différents, si on considère surtout l'aspect économique, financier, politique, ça évidemment... Il y a des journalistes qui ont gratté la question, c'est pas très reluisant. Après, parlons de ce qui est, parlons de l'architecture déconstructiviste telle qu'elle est, du projet, de la scénographie, de l'expographie, des expositions qui s'y tiennent, du lieu en lui-même. Alors on va essayer de pas cracher dans la soupe parce que ça reste quand même un lieu à voir. Donc pour les auditeurs qui n'y seraient pas encore allés, il paraît que c'est des queues à en plus finir. C'est très bien desservi, hein. Vous prenez le tram à Montrocher qui vous arrête devant à 10 mètres, pile en face du bâtiment. Et c'est vrai que je conseille à ceux qui ne seraient pas encore allés de pas monter par l'escalator tout de suite et de monter par la petite passerelle qui circule. C'est assez spectaculaire, c'est vrai. Un des principes de l'architecture déconstructiviste, c'est précisément d'être spectaculaire. Ceux qui connaissent le Guggenheim de Frank Gehry de Bilbao, c'est un peu ce style-là. Plein de caractéristiques plastiques qu'on va pas égrener maintenant. C'est pas le lieu de faire un exposé sur l'architecture déconstructiviste, mais quand même, alors ça, les avantages de ces inconvénients, peut-être. Il y a un côté esbrouf, peut-être, si on veut en rajouter sur le spectaculaire. Prendre le côté spectaculaire, puisqu'on est à spectaculaire, au mauvais sens du terme. Quoi qu'il en soit, il y a une exposition sur les cabinets de curiosité que j'invite les auditeurs à aller voir, qui est très intéressante. Le catalogue est un peu décevant, les dessins sont pas terribles, mais c'est quand même une expo très très bien. Bah, il y a des belles pièces, ceux qui aiment toutes ces collections,
comment
qui font voyager.
Comment est-ce que ça fonctionne? Il y a un fonds permanent et un espace d'exposition?
Alors, il y a des espaces d'exposition temporaire et des expositions permanentes. Dans la Chambre des Merveilles, donc, dont j'ai le catalogue sous les yeux, édité par le Musée des Confluences et Flammarion.
Ça, c'est une expo.
C'est une exposition temporaire qui va, allez-y, avant que ça ferme d'ailleurs, jusqu'à fin juillet, il me semble. Donc ce sont des naturalia, des artificialia, donc des objets scientifiques, techniques, des beautés naturelles, des chimères, des mystifications, des cornes de narval qu'on faisait passer pour des cornes de licorne. Enfin, c'est un mélange d'objets réels, fantastiques, de beautés naturelles incroyables. Donc le cabinet de curiosité, l'ancêtre du musée moderne, au sens moderne du terme.
Et d'où les pièces viennent-elles? Est-ce que c'est...
Alors
elles sont lyonnaises ou
prêtées? Pas mal de mélange, il y a les deux. Oui. Il y a des pièces qui ont... Il y a des donations. notamment de papillons, il me semble. Il y a un grand donateur de papillons qui a donné beaucoup de choses à la collection. Il y a beaucoup de réserves qu'on verra jamais, mais pour l'occasion, il y a un centre, c'est vers la place Berthelot. Non, place Jean-Masset. Place Jean-Masset, il y a un endroit où toutes les anciennes collections du musée Guimet, puisque le musée des Confluences a récupéré une grande partie des collections de l'ancien muséum d'histoire naturelle de musée Guimet, dans le 6e, qui a fermé, qui va devenir je ne sais pas encore quoi, nul ne le sait encore. Et donc ces collections ont été rapatriées dans un lieu où elles sont archivées dans des placards, dans des tiroirs, et qu'on sort pour les expositions. Là, donc, il y a une partie des anciennes collections et d'autres éléments qu'on a pu faire venir d'autres musées de France. En tout cas, il y a beaucoup d'expositions. Il y en a une sur Guimet aussi. Il y en a une sur la conquête des pôles qui circule.
As-tu donné les dates pour ces différentes expositions? En fait, il y a combien d'expositions?
Je vais essayer de les retrouver. Alors, il y a beaucoup. Il y a des expositions permanentes, des expositions temporaires. Donc, en ce moment, en exposition temporaire, il y a les trésors des mille Guimet.
Qui se terminent.
Voilà. Il y a dans la chambre des merveilles, dont je viens de parler, sur les cabinets de curiosité.
Ça se termine quand tout ça?
Je vais vous dire ça. Et à la conquête du pôle sud.
Donc.
Voilà. Et puis après, il y a les expositions permanentes. Donc, les trésors des mille Guimet. C'est jusqu'au 26 juillet.
Bon, alors il y a encore du temps.
Donc là, c'est toute l'histoire.
Oui.
On apprend des choses d'ailleurs que Guimet a inventé un bleu, par exemple une couleur révolutionnaire, qui ressemble curieusement au bleu d'Yves Klein d'ailleurs, ou le IKB.
N'en avons-nous pas parlé.
À partir de nouveaux produits chimiques.
On l'a évoqué avec Gérard Cornelou, non, c'est ça, je crois.
Ouais, on a peut-être évoqué la dernière fois. En tout cas, c'est une expo intéressante, bien scénographiée, avec des belles œuvres. Dans la Chambre des Merveilles jusqu'au 26 juillet, et à la conquête du pôle Sud. C'est jusqu'au 28 juin, donc ça se termine un peu avant. Et là aussi, c'est très intéressant. C'est la course vers la dernière grande récompense géographique qu'offrait la Terre au début du XXe siècle, le pôle Sud. Un continent inexploré. Donc, une expo scientifique. Elle est organisée par l'American Museum of Natural History de New York. En collaboration avec le Musée des Confluences et le Royal BC Museum Victoria du Canada. Alors, les trésors d'Émile Guimet, moi je fais des trous au rideau, je veux voir et je veux que tout le monde voit. Émile Guimet, 1904, extrait de son discours de réouverture du musée Guimet de Lyon. Le musée des Confluences rend hommage à l'un de ses fondateurs, Émile Guimet, et rend compte de son voyage au Japon, étape primordiale dans la conception du musée des religions qu'il fonde à Lyon en 1879, puis à Paris. Novateur dans sa vision sociale et dans son intuition muséale, Émile Guimet reste, un siècle plus tard, d'une grande actualité. Voilà, c'est une exposition d'ailleurs reconnue d'intérêt national par le ministère de la Culture et de la Communication, la Direction Générale des Patrimoines, le Service des Musées de France. Elle bénéficie à ce titre d'un soutien financier exceptionnel de l'État et réalisé avec la collaboration exceptionnelle du Musée National des Arts Asiatiques, Guimet. Du même nom, le musée Guimet, qui est magnifique, un des plus beaux musées de Paris aussi. Hein, à deux pas du grand musée du Quai Branly des Arts Premiers. Avec lequel le nôtre essaie de rivaliser, comme d'habitude, puisque Lyon, la tradition de Lyon est de toujours essayer de rivaliser avec les institutions parisiennes.
Ah, pour le foot.
On pourrait faire une émission spéciale là-dessus.
Pour le foot, c'est bouclé. Hein. Hier, le Paris Saint-Germain l'a emporté contre le FC Metz. Ils sont repassés devant. Ils sont à 3 points de l'Olympique Lyonnais. Je crois que le titre est joué. C'est Paris qui l'emportera. Toi, tu feuillettes une brochure. Moi, je suis sur Internet et j'ai le site sous les yeux. Musée des Confluences.fr. Si vous souhaitez vous y rendre. Musée des Confluences tout accroché. Alors, musée MUS. Et E, enfin disons non, il n'y a pas d'accent, de E, D-E-S, confluence au pluriel, .fr. Et là, vous pourrez également constater que, Gérald, le sais-tu, il y a depuis peu, il y a une programmation musicale dans ce musée des confluences. Ça a commencé quand
début avril.
Récemment, je crois, voilà, c'est ça, en début avril.
Mm-hmm. Il y a eu du théâtre d'Inde du Sud, théâtre dansé du Kerala, Kathakali.
Ces jours-ci, c'est Jazz Days, carte blanche donnée à Nguyen Le. Et c'est jusqu'au 2 mai. Il y a ensuite, il y a différentes choses.
Danse, guitariste.
Musique, classique indienne jusqu'au 4 mai. Enfin voilà. Et puis toute une programmation est à suivre. C'est très intéressant. Ce musée, donc toi tu l'as vu, tu disais qu'il y a beaucoup de monde. Alors comment faire? Est-ce qu'il y a des conflits qui existent?
Surtout le week-end, hein, si vous y allez en semaine à des heures qui ne sont pas des heures de pointe, par exemple lundi à 10h, je pense que vous serez tranquille. En tout cas, il y a des expositions de 3000 m² d'expositions permanentes.
Est-il bien ouvert?
Vraiment à lire, à voir.
Est-ce qu'il est ouvert le lundi? Oui,
oui, je crois, il me semble.
C'est quoi les jours de fermeture du musée? Le musée des Beaux-Arts est fermé le mardi, je crois.
Peut-être le mardi, il me semble.
Oui, c'est également le cas.
C'est à vérifier, mais en jour de semaine, normalement, il devrait y avoir beaucoup moins de monde. Horaire. Non, alors je retire ce que j'ai dit, c'est du mardi au vendredi. Hein.
Samedi et dimanche.
Voilà. Samedi, dimanche, jour férié de 10h à 19h. Du mardi au vendredi de 11h à 19h. Il y a un nocturne, ça peut être très intéressant d'aller en nocturne le jeudi. Tous les jeudis, des nocturnes ouverts jusqu'à 22h. Et c'est fermé tous les lundis. Hein. Voilà. Les tarifs réduits sont à 6 euros et il y a des tarifs jeunesse à 5 euros. C'est vraiment un endroit où on peut passer une après-midi entière, hein, puisqu'il y a beaucoup de choses à lire, à regarder, à apprendre sur les origines, les récits du monde, la mort, les espèces, ouais, la maille du vivant.
Ma crainte, c'est qu'on peut également
passer des hommes.
Un bon bout de temps à attendre pour entrer. C'est une
non, si on, non, si on se débrouille bien, et puis ça va se calmer un petit peu. Hein. Bon. Mais bon, il est, le bâtiment et le lieu est victime de son succès. Et puis de toute façon, il y a aussi une exigence de rentabilité financière. Le budget ayant explosé, il va falloir rentabiliser maintenant.
J'ai pu constater également à Paris, en décembre dernier, fin décembre, il y avait toute une campagne d'affichage pour ce musée des Confluences dans le métro parisien. Il y avait des pleins panneaux, des énormes affiches qui annonçaient parisien, en gros, le message était parisien, descendez à Lyon pour voir ce musée. Qui, il a ouvert quoi? C'est le 20 décembre, je crois, non?
Ça fait quelques mois déjà.
Peu. Oui, disons oui, c'est vrai.
Il y a 5-6 mois, on va dire.
Fin avril, début mai.
Donc ces 3000 mètres carrés sont confiés à des scénographes différents, qui offrent une expérience de visite unique et encourageant le dialogue entre les disciplines. Donc amoureux de la paléontologie, de la minéralogie, de l'entomologie, des sciences et techniques, de l'anthropologie et de l'art contemporain, des sciences exactes et des récits mythiques, allez-y, tout se croise et favorise vos interrogations scientifiques et peut-être même existentielles.
Très bien, tu évoques donc le musée Guimet.
Non, musée des Confluences.
Oui, exactement, excuse-moi, tu as raison, ça fait peut-être, j'ai peut-être déjà fait le lapsus. Musée des Confluences, je l'ai indiqué, le site internet est au.
Il y aura moins de monde que pour aller voir le nouveau facsimilé de la grotte Chauvet de Valampont d'Arc.
Ouais, mais pourquoi en parle-t-on autant? C'est à combien de temps d'ici? Ce n'est pas à côté non plus, si.
C'est à Valampont d'Arc, c'est à 1h30, 2h. C'est en Ardèche, ouais. c'est à deux pas d'ici. Hein. Nous habitons à côté d'un des plus anciens
mais
sites
alors,
artistiques
qu'en penses-tu, toi? Attention, c'est un facsimilé. Hein,
alors c'est un facsimilé, mais bon. Alors j'ai lu, je suis en train de lire plutôt l'hors-série du Monde, consacré à la grotte Chauvet, aux sources de l'art.
Tu parles du Monde, j'ai lu un article qui se terminait avec le concept de Disneylandisation.
C'est toujours le risque.
Oui.
Mais ne va-t-on pas vers une Disneylandisation généralisée de la culture?
C'est-à-dire, ce serait quoi? C'est en faire du pop-corn et du Coca-Cola? Enfin, c'est des choses accessibles et peut-être fausses en plus, c'est ça?
C'est des questions.
Il y avait la crainte d'un commissaire, c'est que les gens en voyant cela, enfin, du moins, ne fassent plus ensuite la différence entre le vrai et le faux. Enfin, c'est.
Ben oui. Mais l'expérience regrettable, c'est à cause de Lascaux. Ça s'était passé dans les années. Donc Lascaux, la grotte de Lascaux,
qui
découverte en 1944 pendant la guerre par quelques adolescents et un abbé.
En plus,
a été ouverte au public, la vraie.
À côté, c'est de la blague, hein, c'est ça. Le Chauvet est encore plus ancienne, je crois, et plus riche que celle de Lascaux, il me semble.
Ben, ça dépend de quel point de vue on se place. Elle est plus ancienne en termes historiques, chronologiques. En termes de qualité plastique, ça se discute, puisque.
Et donc tu disais
la grotte de Lascaux, il y a des choses qu'on annule par ailleurs dans le monde entier. Hein. Mais donc, on a laissé donc l'accueil dès le début et dans les années 60 avec l'affluence trop nombreuse dans le site de Lascaux, le vrai site de Lascaux, il s'est développé une algue verte. Bon, les touristes ont amené de toutes sortes de bactéries. Bon, c'est des endroits qui n'ont pas été à l'air libre et au contact humain d'autres bactéries pendant des millénaires. Donc quand on ouvre tout ça et que l'air rentre. Eh ben, il amène tout ce qu'il faut pas, et on sait quoi. Et ça fait que des algues, la pollution se développe et dégrade les façades. C'est pour ça que là, ils ont évité de récidiver, de commettre la même erreur avec la grotte Chauvet, qui est encore plus ancienne, de moins 10 000 ans.
Je lisais dans ce même article.
Moins 30 000 ans, la date à peu près.
Il y a donc un Lascaux 2 qui a été ouvert, un Lascaux 3, mais il y a même un Lascaux 4 qui devrait arriver. Mais
Lascaux 4, encore.
Ce serait un projet, enfin, du moins, comment dire, c'est un truc mobile. Ce serait je sais pas quelle forme ça pourrait avoir, de la 3D, ou je sais plus si c'est. Peut-être que Lascaux 3, c'est des panneaux.
Alors, ça pose la question intéressante en termes esthétiques de l'original, de la copie, oui. Du faux, puisque. Les touristes qui se rendent à Florence sur la place à côté du Campanile, etc., ne voient que les copies du David de Michel-Ange et de ces belles femmes de la fontaine de Jean de Boulogne, etc., et du Donatello, du David de Donatello. Ce sont des copies, sachant que les vraies pierres, les vraies sculptures originales sont au musée des sculptures.
À Saint-Pétersbourg également,
à Florence.
Les palais qui sont.
Alors, qu'est-ce que ça change en termes d'émotion esthétique voilà, c'est une vraie question, ça.
Qui sont dans la grande banlieue de Saint-Pétersbourg ont été détruits lors de la Deuxième Guerre mondiale et ces palais ont été reconstruits à l'identique, mais voilà, ça date de 50, je crois, 55, alors que le 1950 ou 55, alors que originalement, c'était plutôt 19e siècle, voire avant. Donc, il y a un problème de.
Donc, la Disneyisation, c'est peut-être aussi ça. C'est faire du carton-pâte partout, faire voir et apprécier des répliques partout. je sais pas, savoir peut-être avec ça.
Là où en
l'air
revanche,
du faux.
Là où en revanche, on peut voir des originaux, des œuvres originales, c'est à l'Institut Lumière. L'Institut Lumière a une programmation Fellini qui se termine avec ses derniers jours de mai. D'ailleurs, même Fellini, c'est en fait terminé. C'est plutôt maintenant Oshima. Quoique non, je me trompe. Fellini, il y a encore un ou deux films. J'ai la programmation sous les yeux. Mercredi 29 avril, il y a donc 8 et demi qui est donné tout à l'heure à 16h30. Et puis la cérémonie et la pendaison de Oshima. Et puis ensuite, pour cette fin de semaine, il y a encore d'autres films qui sont donnés. 8 et demi toujours de Fellini ainsi que Les Clowns. Et dimanche 3 mai, fin de programmation avec la cérémonie, Les Clowns et 8 et demi de Fellini. Nouvelle programmation qui arrivera ensuite, qui arrive je crois que c'est, il y a une petite relâche, il me semble, ce sera non pas tout de suite, mais dans les jours à venir. Nouvelle programmation qui conduira d'ailleurs à l'été avec différents films. Est-ce que je les retrouve? Est-ce que je les ai bien sous les yeux? Oui, il y a le Big Lebowski qui est dessus. Donc une programmation qui va du 5 mai jusqu'au 2 juin. Les frères Cohen sont à l'honneur. Il y a aussi, il y a d'autres choses. Il y a le Festival British Comedy. Il y a une nuit Sergio Leone. Une invitation a été lancée à Tim Robbins. Et puis il y a aussi l'avant-première de Lady Grey d'Alain Chocard le mardi 5 mai. Enfin voilà, tout un tas de choses qui sont données à l'Institut Lumière. On pourra en reparler peut-être une prochaine fois. Karen Dalton, tu proposes d'écouter? Moi, je propose d'écouter plutôt Björk. Plutôt Björk, puisque Björk a sorti un album avec à l'occasion de ça. Enfin, l'occasion. Après sa séparation avec l'artiste artiste plasticien, ils sont fascinants, ces plasticiens. Matthew Barney, donc elle a sorti Vulnicura, qui est assez récent, je crois, mois d'avril, me semble-t-il. Écoutons une piste extraite de la compilation des Inrecuptibles. J'ai mangé le nom de ce titre, je n'arrête pas de dire manger le nom. Il s'agit de Stone Milker, extrait de cet album Vulnicura de Björk. Nous écoutons cela et ensuite, eh bien Gérald, le temps aura filé, il ne nous restera que 10 minutes pour boucler cette émission de spectaculaire sans invité aujourd'hui.
Vous avez bien dit boucler, hein, et pas bâcler.
Non, jamais de la vie. Björk.
Demis Roussos, Björk, en direct sur Spectaculaire, Radio Canu 102.2. Bon, je suis un peu déçu. Hein.
Moi, j'aime beaucoup.
Je trouve qu'elle se répète, c'est vraiment très, très, très répétitif. Les nappes de violon, la manière de chanter, c'est très mélodique, presque trop mélodique. Moi, je suis déçu.
Ouais, l'album Volta était peut-être un peu différent. Je ne les ai pas tous écoutés. Medulla, qu'est-ce qu'il y avait encore aussi? Homogenic. Oui, c'est vrai que ça, là, ça fait beaucoup penser à Homogenic, qui est sorti quand même en 98, je crois.
Ouais, donc, ça ne rajeunit pas, ça.
ça va presque faire 20 ans. Allez.
Ça ne vaut pas Kurt Weill et Bertolt Brecht?
Des dernières annonces pour terminer, différentes choses. Tu souhaitais évoquer un petit magasin qui n'est pas très, très loin d'ici, qui met en vente notamment.
Oui. J'aime pas faire de la publicité,
on n'est pas là pour ça. C'est local.
C'est vrai que bon, en ce moment, si vous voulez voir une belle version du Théâtre Real de Madrid, The Rise and Fall of the City of Mahagony de Kurt Weill et Bertolt Brecht, vous pouvez vous procurer pour une somme très modique l'intégralité de cette comédie musicale. Donc c'est très très bien. Enfin, comédie musicale, comment appeler ça?
Et alors, où se rendre?
Il faut aller à Harmonia Mundi. Rue de Brest, je crois. C'est rue de Brest.
Et qui faut-il demander?
Puisqu'il y a des soldes. Christian. Christian sera enchanté de vous procurer ce truc de Mahagony, là. Il est très, très bien.
Il y a d'autres choses également.
Parce que peut-être que les DVD vont arrêter, donc il est en train de faire des soldes de bonne musique. Et de bonne musique, on y trouve aussi Karen Dalton, par exemple.
Mais alors, ce sera peut-être le prochain titre. Mais
ouais,
bon,
Karen Dalton, une découverte de bluesman.
Je crois que cet Harmonia Mundi se trouve juste en face du CNP Terreau, qui est en travaux, c'est ça actuellement, voilà. Je crois.
Et en ce moment, il y a des soldes intéressants de fiction et de documentaires. On peut y trouver des choses intéressantes. Et de musique aussi.
Alors, tu parles de musique, je vais te dire comme ça deux, trois mots. J'ai annoncé tout à l'heure, j'ai dit que les programmations des saisons prochaines de l'Opéra et de l'Auditorium, les programmations ont déjà été publiées et il y a beaucoup de choses à venir. L'année prochaine, notamment, il y aura le Zarathustra qui va être redonné à l'Auditorium de Lyon. Il y a aussi différents concertos, les symphonies de Mahler. Plusieurs seront données, pas toutes, mais plusieurs seront données. Il y a différentes choses qui seront faites. La communication est à retrouver, je pense, sur le site internet de l'Auditorium. L'Opéra, pareil, ils ont également annoncé leur nouvelle saison 2015-2016. Plusieurs opéras à venir, notamment La Damnation de Faust, voilà, de Berlioz, et puis d'autres choses. Mais plus proche dans le temps, peut-être, pour l'Opéra de Lyon, je l'ai annoncé tout à l'heure, Carmen à venir, eh bien, ça commence demain, jeudi 30 avril. Pélas et Mélisande, ça commence au mois de juin, le début, je pense que c'est autour du 8 juin que sera la première. Et puis, pour revenir à l'Auditorium, voilà, Ping Pong, il y a des concerts à venir, je pourrais les évoquer, les égrener comme ça, chacun de tous les concerts. Je vois, par exemple, qu'il est prévu les mercredis 27 et jeudi 28 mai à 20h, un ciné Carmen, c'est dans le cadre des ciné-concerts. C'est-à-dire concrètement que le film de Cécile B2000, Carmen, qui date de 1915, sera donné, sera projeté, sera diffusé. Et en même temps, l'Orchestre National de Lyon, sous la direction de Timothy Brock, eh bien, jouera la musique de ce film. Je pense à un prochain ciné-concert à venir, Matrix. Des frères Wachowski sera donné à l'Institut Lumière, ce sera donné à l'Auditorium avec sur scène l'Orchestre National de Lyon, toujours sous direction, je crois, de Timothy Brock. Et bien, ils joueront la partition musicale de ce film, mais il y aura également, j'ai lu d'autres choses, et c'est à venir pour cette saison 2015-2016, je crois que ce sera en avril prochain, avril 2016. Mais peut-être mieux, et pour terminer, quelque chose qui, moi, me parle beaucoup, me plaît beaucoup, l'autre nom, le connais-tu, Gérald, l'autre nom de l'Auditorium, de la salle de l'Auditorium, la salle Maurice Ravel. Ah oui. Et l'Auditorium, l'Orchestre National de Lyon, s'est lancé depuis quelques années dans un projet discographique, l'enregistrement l'intégralité des œuvres de Maurice Ravel. Ah oui. Ils en sont déjà à 5 ou 6 volumes, je crois, il en reste encore. Il en reste encore quelques-unes, et donc, bien, ce qui fait que régulièrement, des œuvres de Maurice Ravel sont données. Par exemple, ce soir, mercredi 29 avril, ainsi que jeudi 30, à 20h, sera donné le tombeau de Couperin, en première partie. Sinon, les autres œuvres, ce sera Gabriel Fauré, Pélas et Mélisande, et puis de Dimitri Shostakovich, le concerto pour violon numéro 1, avec un soliste, Joshua Bell. Mais il y aura une soirée Ravel complètement, là, intégralement, les jeudis 13 et samedi, jeudi 11 et samedi 13 juin, à 20h. 20h le jeudi et 18h le samedi. Soirée Ravel, alors attention, donc que des œuvres de Maurice Ravel, le concerto pour piano en sol majeur, le concerto pour piano en ré majeur pour la main gauche, ainsi que Daphnis et Chloé, qui est un ballet qui sera donné cette fois-ci de manière qui sera donné en intégralité. C'est bien une heure de musique et c'est génial. La fin, ça me fait beaucoup penser au film Chérie, j'ai rétréci les gosses. Il y a un truc qui est très amusant. Si, la musique de ce film, je ne sais plus qui la faisait. C'était très bon. Voilà, je ne sais plus que dire. Si, il y a également de la musique pour terminer, toujours et rester dans la musique. Il y a de la musique classique à venir, musique assez ancienne, musique baroque même, on pourrait dire, ou non, pas tout à fait. Si, Georges Friedrich Händel, des airs d'opéra, Héros, c'est le nom de ce concert qui sera donné le mardi 19 mai à 20h à la Chapelle de la Trinité. C'est dans le cadre du Festival de Musique Baroque de Lyon. On en avait parlé en décembre dernier. Te rappelles-tu, nous avions reçu le directeur de la Société de Musique de Chambre, qui est plus ou moins lié à ce Festival de Musique Baroque. Et tout ça, c'est dans le cadre des grands concerts. Le site internet, d'ailleurs, c'est lesgrandsconcerts.com. Et donc, il y a dans le cadre de cette fin de saison, donc un premier concert à venir le mardi 19 mai. C'est Héros, air d'opéra, direction assurée par une femme, Nathalie Stutzmann, contralto ainsi que direction. Et puis, un peu plus tard, au mois de mai, le samedi 30 mai à 18h, toujours à la Chapelle de la Trinité, Bach au Marimba. C'est-à-dire que le SR9, qui est un trio de percussions, eh bien, ils joueront un programme autour de l'offrande musicale de Jean-Sébastien Bach. C'est un concert.
Ça avait déjà été fait par il y a 20 ans déjà, l'Ambarena, l'album concept Bach en l'Afrique.
Je ne sais. En tout cas, ce que je sais, c'est que Pascal n'est toujours pas là. On va déborder.
Ce que je sais, c'est quand on n'a pas d'invité, on a quand même cette tendance à égrener des produits culturels, des consommations. Ouais. On est dans la consommation culturelle. Alors, ça veut dire quoi? Consommer, on rate toujours quelque chose. Il faut voir si c'est, comme on dirait, le mot à la mode. Incontournable. Voilà, donc spectaculaire aujourd'hui, essaye de ne pas donner dans l'incontournable culturel, et pourtant, ben voilà, on égrène des journaux, des choses à lire, à voir, à faire.
Des choses un peu plus rares. Par exemple, tu as entre les mains quelque chose qui a réussi à avoir un an. Non, je pense à l'autre. Ils ont réussi à avoir un an, c'est très beau. Ils ont commencé.
Oui, le numéro 1 qui sort aujourd'hui même, c'est un hebdo du mercredi, Le Corbusier, La Ville et Nous. Donc c'est un journal qui est un peu cher, hein, c'est vrai, il faut le dire quand même, il fait 2,80, moi je trouve ça un peu cher, mais il est passionnant, il donne à réfléchir, le concept est d'une page entière pliée, et vous arrivez à la fin à tout déplier, et vous avez un format qui est deux fois plus grand que Le Canard Enchaîné, quand même, il fallait le faire, et c'est une feuille pliée, une seule feuille, et c'est un thème d'actualité traité de manière très différente par plein d'auteurs, de bons dessinateurs. Il y a un poème, ça c'est La Voix du Poète, il y a la rubrique La Voix du Poète qu'il faut saluer, cette initiative, de Louis Chevalier, de donner à lire un poème tous les mercredis, très intéressant, lié à une question d'actualité. Cette semaine, c'est Le Corbusier, La Ville et Nous. La semaine dernière, c'était C'est les hobbies qui font la loi. Donc très intéressant, des questions politiques, culturelles, artistiques.
À quel numéro donc, 60?
Il y a eu des numéros sur des villes.
C'est 55 non? Quel numéro, regarde?
Le numéro 54, aujourd'hui, vient de sortir en kiosque.
Et donc tu vois, c'est ce que je te dis.
Consacré à l'architecture, au mythe Le Corbusier, un mythe vivant qui a conditionné une bonne partie de ce qu'on voit tous les jours dans le monde. Malgré l'architecture déconstructiviste de Immel Blau, du musée des Confluences de Lyon, dont on parlait en début d'émission.
Eh bien, tu parles du début d'émission, c'est très amusant.
C'est la fin.
Et voilà, c'est ça. Et zut, on n'aura pas pu écouter Karen Dalton.
Eh ben, on l'écoutera la prochaine fois.
Une prochaine fois. Auditeurs, nous laissons la place pour le Blues des Canuts qui n'aura peut-être pas lieu, ou alors peut-être Pascal est-il en retard, qui sait. Écoutez donc, restez à l'écoute. Non, Karen Dalton, on l'écoutera une prochaine fois. Non, essayons quand même de respecter les créneaux horaires. Il est 15h01, donc nous laissons l'antenne. Restez à l'écoute des programmes de Radio Canut. Laissons Bâtard, est-ce à venir tout à l'heure à 16h? Peut-être.
Espérons que nous aurons un invité la semaine prochaine.
À 19h, le Canu Info, et à 18h, Méga Combi. Voilà, c'est le programme des émissions. À défaut d'écouter les émissions, écoutez aussi les bandes continues de Radio Canu. Et puis voilà, portez-vous bien, bonne semaine, et rendez-vous sur le blog ou bien la semaine prochaine.
Au revoir.